Bonsoir à tous. Je suis Stéphanie Gallet, je suis journaliste à la radio RCF. Et ceux qui ont l'habitude de venir le savent, ce débat est rediffusé dans une semaine, le mardi soir, sur RCF à 21h. Donc moi, je suis là pour garantir que c'est bien diffusable. Donc je suis le maître des horloges. D'accord ? Donc vous inquiétez pas, là je vais refaire une introduction bien propre pour vous saluer, saluer les auditeurs. Voilà, vous allez avoir l'impression que je me répète, mais c'est pour qu'on soit bien dans la forme. Ça vous va ? Bonsoir à tous. RCF s'est ce soir installé au Centre Sèvres, l'Université des Jésuites de Paris, pour notre rencontre des mardis d'éthique publique. Ce mardi 8 février, à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, nous allons parler avec nos invités de la place des médias dans cette campagne, alors que les Français semblent plus que jamais se détourner de l'actualité et que leur confiance dans les médias s'étiole. Une soirée en lien avec le quotidien La Croix, qui vient de publier son 35e baromètre sur la confiance des médias. Alors c'est François Heuvé, jésuite et directeur de la revue Études, qui conclura la soirée. Et je donne maintenant la parole à Jean-Luc Poutier, historien et organisateur de ces mardis d'éthique publique, pour qu'il introduise cette soirée.
Merci Stéphanie. Le lundi 7 février dernier, Madame Sybille Veil, PDG de Radio France, a appelé à la responsabilité dans cette campagne électorale afin que ce moment important pour notre démocratie se déroule de manière respectueuse. Cette déclaration faisait suite à la charge d'Éric Zemmour contre France Inter le samedi précédent à Lille. Éric Zemmour s'en était pris à la propagande immigrationniste, woke et décoloniale de France Inter qui n'hésite pas à insulter les Français qui ne pensent pas comme eux. Madame Veil rappelait aussi que ce lundi 7 février, Éric Zemmour avait été, durant plus d'une heure, l'invité de la matinale de France Inter. Peu de temps avant, une journaliste de M6 avait été placée sous protection de la police. Elle avait reçu des menaces de mort à la suite de la diffusion d'un reportage sur l'islamisme à Roubaix. Une autre personne, qui témoignait dans l'émission, a elle aussi été placée sous protection de la police. Il n'est pas inutile d'avoir ce contexte en tête pour apprécier le rôle des médias dans la campagne présidentielle actuelle à la lumière du 35e baromètre déjà évoqué, baromètre de confiance dans les médias réalisé par l'Institut Kantar et publié comme chaque année par le quotidien La Croix. La méthode et les résultats de cette enquête vont être présentés et discutés ce soir. Un des enseignements que donne le sondage ne laisse pas d'intriguer. La confiance des Françaises et Français dans les médias a rarement été aussi faible. Et pourtant, ils et elles en ont rarement attendu autant. Une telle injonction contradictoire pourrait être prise pour une énième déclinaison du « qui aime bien, châtie bien ». Au-delà toutefois, elle traduit aussi une des sources des fragilités actuelles de notre démocratie. Lorsque les mêmes Françaises et Français se voient, s'entendent ou se lisent dans les journaux, radios, télévisions et réseaux sociaux, ils ressentent peut-être une sorte de défiance envers eux-mêmes et pas seulement envers le miroir de la presse ou envers leurs dirigeants. Dans la campagne présidentielle actuelle, les médias contribueront-ils à restaurer un peu de la confiance des Français en eux-mêmes ? Ce sera sans doute aussi une partie de leur rôle.
Merci Jean-Luc Poutier pour cette introduction. Je vais maintenant vous présenter les intervenants de cette soirée. Alors il y a avec nous Guillaume Caline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur enjeux publics et opinion chez Kantar Public. Kantar Public, c'est l'institut qui a réalisé avec le quotidien La Croix ce baromètre de confiance des médias. Merci d'être avec nous. Dominique Potier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socialiste, député de Meurthe-et-Moselle et fondateur du laboratoire d'idées Esprit Civique. Et puis dernier invité, Jérôme Chapuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction du quotidien La Croix. Guillaume Caline, on va commencer avec vous. Je voudrais que vous nous expliquiez, vous nous montriez quelles sont les principales conclusions de ce baromètre des médias et en quoi, quelles sont ses conséquences sur la tenue de la campagne présidentielle.
Avec plaisir, merci. Peut-être d'abord un premier mot sur baromètre, effectivement, qu'on réalise depuis 35 ans pour La Croix, qu'on réalise un sondage qu'on réalise auprès d'un échantillon national représentatif de Français, de 1000 personnes, qu'on interroge en face à face de la même manière depuis le début de ce baromètre en 1983, ce qui permet vraiment de suivre sur le temps long le rapport des Français à leurs médias. Ce baromètre, il nous apprend beaucoup de choses. Mais je dirais que cette année, particulièrement en fait dans une année électorale, tout son intérêt est d'être et de pouvoir voir le rapport justement de ces Français avec leurs médias et aussi plus particulièrement avec leur démocratie. Et je dirais effectivement, pour reprendre les mots de Jean-Luc Poutier, c'est qu'il y a une vraie responsabilité, je pense, aujourd'hui des médias à l'égard de leurs lecteurs, de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs, parce que les Français attendent finalement beaucoup de choses de leurs médias, et ça, je pense que c'est un des enseignements clés de ce baromètre cette année. Les Français, ils ont des relations assez compliquées ou assez complexe avec leurs différents médias, et ça va avoir une importance toute particulière dans l'élection présidentielle, parce que les Français, finalement, ils vivent et ils suivent l'élection présidentielle avant tout à travers leurs médias. Et en fait, il y a aussi, et ça je pense que ce sera quelque chose d'assez intéressant à suivre cette année, une place toujours très centrale de la télévision, en fait, dans ces usages. C'est vrai que Internet prend de plus en plus de place dans la manière dont on perçoit la campagne, ne serait-ce qu'à travers Twitter, qui a une faible audience au niveau des Français, mais une forte audience au niveau des médias qui en parlent beaucoup. Et je pense que c'est important de rappeler la place très centrale, en fait, de la télévision dans les usages des Français. Un Français sur deux dans notre enquête dit qu'il s'informe avant tout à travers la télévision. Et je pense qu'on peut rappeler aussi qu'un Français sur trois, chaque jour, regarde un des journaux de 20 heures. On va voir aussi on a vu en 2017 le poids très important des débats dans la manière aussi dont sont cristallisées les intentions de vote des Français à différents moments clés. On voit aussi, là, depuis aussi l'émergence des chaînes d'information en continu, à quel point les meetings sont suivis, sont diffusés par les chaînes, ce qui n'était pas forcément le cas il y a plus longtemps. Et donc ces meetings aussi participent aussi de cet intérêt et de la construction du vote chez les Français. Et c'est encore plus le cas évidemment en période de crise sanitaire où le présentiel est plus compliqué. Mais pour l'heure, je pense que ce qui est assez marquant finalement aussi dans les résultats de ce sondage et dans les résultats des autres enquêtes qu'on peut réaliser sur la présidentielle aujourd'hui, c'est le peu d'empressement finalement des Français à s'intéresser à l'actualité, à s'intéresser à l'élection présidentielle. Un des résultats clés de notre enquête cette année, c'était l'intérêt assez faible des Français pour l'actualité. 62% des Français qu'on a interrogés nous disent qu'ils suivaient l'actualité avec intérêt. C'est un des niveaux les plus bas qu'on ait pu mesurer depuis plus de 30 ans, un niveau qui n'a jamais été aussi bas justement en année présidentielle. Et ce qui était particulièrement notable cette année, c'était le faible niveau chez les jeunes aussi, qui augure mal de la participation de ces jeunes. Et à côté de cet intérêt assez faible pour l'actualité, ce qu'on note aussi, c'est dans d'autres enquêtes, l'intérêt assez faible des Français pour l'élection présidentielle aujourd'hui, un intérêt plus faible qu'en 2017, et aussi, d'après certains de nos confrères sondeurs, un intérêt qui recule à mesure que l'échéance se rapproche, ce qui n'est pas là non plus un très bon signe en termes d'intérêt pour cette échéance démocratique d'importance. Alors, des intérêts pour l'actualité et pour l'élection semble aller de pair hein, cette année et depuis plusieurs scrutins. C'est sans doute en partie lié au fait que l'offre politique aujourd'hui satisfait peu une grande partie des Français. La crise de la représentation, la crise de la démocratie, de la participation électorale, voilà, elle est fréquente depuis plusieurs scrutins. Je pense que c'est pas une nouveauté, mais ça s'accroît à travers les années. On a à côté de ça aussi une crise de confiance des Français dans leurs médias, qu'on mesure depuis plusieurs années à travers ce baromètre pour La Croix. Les Français expriment un certain nombre de doutes par rapport à ce que les médias peuvent relater, par rapport à l'indépendance des médias. Et d'ailleurs, c'est une particularité française hein, quand on regarde au niveau européen et qu'on compare justement la confiance que les Français accordent aux médias. La France se classe parmi les pays les plus méfiants à l'égard de ces médias. Donc crise de confiance des politiques, crise de confiance des médias, et aussi sans doute une insatisfaction sur la manière dont les médias rendent compte aujourd'hui de la politique, rendent compte des débats électoraux et rendent compte aussi de la manière dont se construit une campagne. On l'a vu là aussi dans le baromètre des médias cette année. On a demandé aux Français s'ils pensaient que les médias avaient trop parlé, pas assez parlé d'un certain nombre de sujets. Et alors, sans surprise, c'est l'épidémie de Covid dont les Français ont le sentiment qu'on a trop parlé l'année dernière. Mais l'autre sujet qui aussi a un petit peu exaspéré les Français, c'est la candidature, le sentiment que les médias ont trop parlé de la candidature d'Éric Zemmour. Et au-delà de la personnalité d'Éric Zemmour, je pense qu'aussi la scénarisation autour de sa candidature ou non-candidature, le fait qu'on en ait parlé beaucoup dans les médias pendant une assez longue période, je pense qu'a aussi montré l'insatisfaction des Français sur la manière dont jusqu'à aujourd'hui les médias ont traité de la présidentielle. Alors, je pense que ce qui est aussi intéressant, qui vient aussi montrer cela, c'est une enquête qu'on avait réalisée aussi l'an dernier au moment des élections régionales. Vous savez, on a battu des records d'abstention à ce moment-là et on avait demandé, juste avant le scrutin, aux Français de quoi ils avaient envie qu'on parle pendant cette campagne. Et ce qui ressortait en premier, c'était les programmes des candidats. Les deux tiers des Français voulaient d'abord qu'on parle des programmes, qu'on parle aussi du rôle et des compétences des conseils départementaux et régionaux et qu'on parle des réalisations aussi des majorités sortantes. En revanche, ce qui arrivait en dernier, c'était savoir quel serait l'impact des régionales sur la présidentielle à venir et savoir quelles étaient les stratégies d'alliance entre les partis. Or, dans la manière dont beaucoup de médias ont traité finalement ces élections, surtout au niveau national, on a davantage parlé de ces derniers sujets que des programmes en tant que tels, ce qui explique aussi l'indifférence des Français à l'égard de ces élections l'an dernier. Donc effectivement, la mise en scène de la politique à travers justement ces stratégies d'alliance, les stratégies aussi de personnes, je pense aussi fatigue une partie des Français, ou en tout cas ne mobilise plus aux élections. Et à l'inverse, dans notre enquête, quand on a demandé aux Français de quoi ils avaient envie que les médias parlent, ou en tout cas plutôt les sujets dont ils pensaient que les médias n'avaient pas assez parlé l'an dernier, ressortaient notamment la COP26 à Glasgow, le sentiment que les médias n'en avaient pas assez parlé, l'augmentation des prix de l'énergie, l'annonce par Emmanuel Macron de la construction de nouvelles centrales, donc des questions liées au climat, à l'énergie, au coût de la vie. Ça, c'est des sujets dont les Français ont le sentiment que les médias n'en parlent pas assez ou ne lui accordent pas la place aussi importante. Donc ça explique sans doute le désamour, l'éloignement des Français à l'égard des médias. Et pourtant, et ça c'est aussi une des autres choses de notre sondage cette année, il y a de vraies attentes des Français, de vraies attentes d'exigences démocratiques à l'égard des médias. On le voit que ce que les Français attendent en priorité de leurs médias, c'est d'abord la qualité de l'information, que ce soit des informations qui soient fiables et vérifiées, l'indépendance des médias à l'égard du politique et des pouvoirs économiques, et la pluralité, la diversité des médias. Et sur ces différents éléments, ils sont malheureusement assez critiques sur la situation en France aujourd'hui. Et pour autant, même s'ils sont critiques, ils expriment des attentes fortes pour les aider justement pour la présidentielle, à les aider à faire leur choix. La première attente des Français à l'égard des médias pour la présidentielle, c'est de donner la possibilité aux candidats justement de présenter leur programme, de présenter leur vision pour la France. Leur deuxième attente, c'est que les médias aussi révèlent les fausses informations que les médias pourraient diffuser. Et leur permettent ainsi d'évaluer la sincérité des candidats, leur projet pour la France. Donc l'attente vraiment des Français, c'est que les médias les aident d'une manière neutre. Alors la neutralité et l'objectivité dans les médias, c'est évidemment un exercice compliqué, mais c'est quand même cette attente qui est exprimée, beaucoup plus d'ailleurs que d'avoir des médias d'opinion, qui aient des opinions politiques ou idéologiques tranchées. C'est plutôt le fait que les médias viennent vraiment aider à apporter les bonnes informations. Et une dernière chose, et je conclurai par là, une des attentes aussi assez fortes qui a été exprimée par les Français à ce moment-là, c'est que les médias favorisent des débats apaisé entre les candidats pendant la présidentielle. Et je pense qu'effectivement, dans cette période où il y a aussi une recherche du clash assez fréquente, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les chaînes d'information en continu, ce besoin d'apaisement des Français à l'égard des médias, je pense qu'il est aussi un signe de cette attente d'une société plus apaisée, à la fois politiquement, on va dire, et également dans la manière dont les médias rendent compte de l'état de la société.
Merci beaucoup Guillaume Caline pour cette synthèse de ce qu'il faut retenir de ce baromètre de confiance envers les médias. Je me tourne maintenant vers vous, Dominique Potier. Je rappelle que vous êtes un député socialiste. Alors comment l'élu que vous êtes reçoit cette méfiance des Français à la fois à l'égard des médias, mais aussi leur désintérêt pour la campagne présidentielle actuelle?
Il me semble que tout est dit. Et j'ai envie de vous livrer d'abord trois réflexions que m'ont inspiré la préparation de cette rencontre et puis la lecture de ce sondage, de cette enquête d'opinion que vous avez réalisée. trois réflexions de fond. Et puis, comme vous l'avez demandé, c'est repartir de la pratique, de ses joies et de ses frustrations et de ses peines et de ses enthousiasmes. Et ils sont nombreux les uns et les autres. La première, c'est réflexion que j'ai envie de vous partager, c'est le fait que la défiance des médias envers les médias, elle trouve son écho dans une certaine défiance des politiques à travers envers les médias et des médias envers les politiques. Que ce soit à l'échelle territoriale, dans la presse quotidienne régionale ou dans la presse locale en général, qu'elle soit télévisée, qu'elle soit radiophonique, il y a toujours cette méfiance dans l'intention du média a priori ou du politique a priori qui s'est, que j'observe, s'installer. Et je me dis que quelque part, deux institutions qui sont constitutives de la démocratie, les élus, les partis politiques et les médias, sont rentrés dans une logique de défiance réciproque. Et peut-être que cela contribue à une forme de destruction des institutions qui sont censées incarner la question de la justice. Si on ne croit pas qu'un élu politique, qu'un mouvement politique, a priori, vise le bien commun, une part de la vérité, la recherche de l'intérêt général, et qu'on se méfie, qu'on pense qu'il cherche uniquement son intérêt personnel, à court terme, etc. Et si on pense que chaque média va chercher à nous piéger, à trahir notre opinion, etc., on s'installe dans une logique à la fois de séduction et d'agressivité qui n'est pas propice à cette société bienveillante, démocratique, cette démocratie apaisée, auquel semble aspirer, d'après votre enquête, c'est ce que dit notre ami, profondément les Français. Donc, je me dis vraiment, est-ce que les institutions se détruisent ou est-ce qu'elles se consolident? C'est très important. Et vous verrez, dans le monde politique comme dans les médias, il y a des médias et des politiques qui fabriquent de l'institution de justice et il y en a qui la détruisent. Voilà. Deuxième réflexion, elle est d'une immense banalité, je vous prie de m'en excuser par avance, c'est la fragmentation et le foisonnement de l'offre et la fragmentation des usages. Il arrive qu'entre des générations, mais plus communément et peut-être plus gravement, entre voisins, on soit dans des univers médiatiques qui n'aient plus rien de commun. Alors, je ne suis pas nostalgique de l'ORTF et du journal de 20h avec le général de Gaulle, c'est pas du tout de ça que je parle. J'ai été moi-même promoteur d'une radio locale quand j'avais 20 ans, en milieu rural, etc. On a fait tout ça, on a participé à cette libération des ondes, à cette rupture technologique, associative de libéralisation. Néanmoins, j'observe aujourd'hui qu'on est dans des univers tout à fait fragmenté. J'ai un ami, maire d'une petite ville du secteur, qui est prof en lycée professionnel et qui me dit, quand j'entends les collègues critiquer le journal de 20h, je dis, mais vous êtes complètement en dehors du sujet de société. Moi, mes élèves ne regardent jamais un journal de 20h. Un journal de 20h, même le plus médiocre, il est structuré. Il y a un contrepoint, il y a un ordre du jour, il y a une hiérarchie, il y a une enquête, il y a un reportage, une mise en perspective. Non, leurs sources d'information, elles sont des fragments d'informations par des véhicules divers dans des médias que vous connaissez par cœur, qui sont les réseaux sociaux, etc. Donc, il dit, j'ai en face de moi, je n'ai pas le média des médias pour engager un débat sur les questions de société, sur les questions d'avenir du monde, sur les questions machin. Je n'ai pas de référence commune parce que leurs références sont fragmentées. Et cette fragmentation à tous les étages, elle fait écho à une forme d'individualisme, de fragmentation socioculturelle, de la socioculturelle économique de la société. Elle fait état à des fonctionnements en réseau plutôt qu'en communauté. Encore une fois, on peut être conservateur sans être réactionnaire, mais on peut s'interroger sur une res publica qui s'incarne pas dans des temps et des lieux communs qui ont la figure de médias partagés. Et on pourrait imaginer une société qui est à la fois des moments partagés et puis des moments de singularité. Or, il me semble que les moments de singularité l'emportent sur le commun aujourd'hui et qu'ils peuvent peiner à faire. Dernière réflexion générale, c'est la question de l'équilibre des pouvoirs. Nous sommes terriblement inégaux, malgré les efforts de l'école de la République, à cause peut-être de la carence de ce tiers-lieu entre la famille et l'école qu'est l'éducation populaire, de lieu de déchiffrement des médias, d'appréhension des médias, d'apprentissage des médias comme auteurs, comme critique, comme partie prenante de la construction de ces médias. Et cet exercice-là prive un certain nombre de nos concitoyens de cet esprit critique, de cette capacité à se méfier de la mauvaise information, à la traiter, à se mettre à distance, à la sélectionner, à l'orienter. Et d'autre part, on a un autre phénomène qui est celui de la concentration dans les mains de certains pouvoirs économiques de masse importante de médias, le phénomène américain de concentration par des puissances économiques de médias qui font l'opinion, au sens, alors ça a été les médias conservateurs, ça peut être autre chose ailleurs, hein, aux États-Unis, semble arriver, je ne suis pas du tout un expert, mais j'observe que des observateurs disent que ça peut arriver en France, qu'on évoque tel groupe financier et tel type de médias qui ont une part influente trop importante pour qu'une démocratie soit équilibrée. Donc cet déséquilibre des pouvoirs dans l'appréhension du média par le citoyen, un peuple d'inégaux, ce n'est pas l'idéal républicain évidemment, et d'autre part des puissances financières qui concentreraient la capacité à faire l'opinion, il y a là pour le moins motif d'inquiétude. Il doit me rester 2 minutes pour les questions plus personnelles. C'est merveilleux.
Un petit peu plus,
merci ouais. Stéphanie. C'est vraiment agréable et dans ces médias où on a un petit peu de temps, on se sent... Alors, j'ai mis ça une petite réflexion. Alors je dis peine et joie, c'est plutôt... C'est un peu les deux, mais c'est plutôt peine, dans le rapport du politique aux médias. Alors, je suis ingrat, hein, parce que ce soir, c'est un grand privilège, mais d'être sur RCF et dans cette configuration. Mais moi, j'observe, et je vous le dis sans avoir l'air trop triste, c'est les médias préfèrent quand même les cueilleurs aux semeurs. Donc, maudits soient les semeurs, hein, les laboureurs, ceux qui travaillent dans le temps long, qui travaillent avec les autres. Ça accroche moins, je vous assure. Par contre, celui qui sait cueillir au bon moment, une idée, une proposition, un slogan, etc., va faire florès et il y a un mouvement qui aimante la sphère médiatique. Donc, malheur aux semeurs et aux laboureurs, heureux les cueilleurs, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. J'observe quelque chose, ça fait 10 ans, j'ai eu des mandats locaux, j'étais paysan, j'étais leader, enfin responsable associatif, j'étais plein de choses. Dans le temps long, j'étais plutôt paysan et bénévole associatif. Et puis, je suis devenu élu local, communauté de communes, toutes les choses comme ça, territoire, hein, et député depuis maintenant 10 ans. J'avais comme adversaire Nadine Morano, c'est-à-dire j'avais une spécialité de spécialiste de la communication, vraiment une grande spécialiste de la communication. C'est pas mon cas. Je ne jouais pas du tout dans le même registre. Moi, j'étais plutôt la tortue, elle était le lièvre. J'observe néanmoins que toute tortue qu'on est, à un moment donné, vos amis, y compris vos amis proches, demandent que les médias soient une sorte de tiers de confiance qui atteste que ce que vous faites, a du sens au-delà des cercles qui nous réunissent. Ça, c'est une découverte profonde. C'est qu'il y a besoin qu'une institution tierce vienne dire ce qui est fait là est vrai. Une anecdote, elle s'appelle Marcel. Chaque fois que je fais une tournée des communes, je vais dans les 180 communes. Marcel est toujours à la même place, elle est toujours un petit peu plus courbée, parce qu'elle est très, très âgée et très courbée. Et parce que chaque année, je la retrouve à la même place avec beaucoup d'émotion, je vais la saluer bientôt. Et Marcel, un jour, arrête, je fais mon petit baratin de 10 minutes, puis généralement, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure de discussion avec les gens qui sont réunis dans la mairie, pour rendre compte de mon mandat, échanger, etc. Et Marcel, elle prend la parole, puis elle dit « C'est vrai ce qu'il dit l'homme-là, j'ai lu dans Le Pèlerin. » Et ça, alors, c'était un moment très drôle, parce que la référence au Pèlerin dans un petit village, ça c'était émouvant. Mais vraiment, moi je suis pas... Dans ma belle famille, on lisait Le Pèlerin, chez nous on lisait La Vie. Hein, ça a été un mariage, vous imaginez, mixte quasiment. Hein, non, je plaisante, j'aime beaucoup ces revues, mais cette femme-là, alors elle aurait pu dire « je l'ai lu dans Libé », un autre aurait pu dire « je l'ai lu dans Libé », mais il y a ce côté « c'est vrai, je l'ai lu dans ». Et ben Marcel a exprimé à sa manière quelque chose de très profond, qu'on a besoin de le voir à la télé ou de l'écouter à la radio pour que ça soit vrai. Sinon, ça peut apparaître paradoxalement comme une fiction. C'est un mystère que je vous livre. Il me reste 1 minute. Je suis, quand j'explique que ça fait 30 ans que j'utilise plus du glyphosate comme paysan et comme élu local, mais que je suis contre le fait qu'on vote son interdiction à l'Assemblée nationale, il faut à peu près 5 minutes pour expliquer pourquoi c'est dangereux pour une démocratie de remplacer la dictature du marché par celle de l'opinion et que ce n'est pas les bons mécanismes pour faire une démocratie moderne. Ben ça, il faut 5 minutes de silence et de concentration pour le faire. Il y a des tribuns, à droite et à gauche, qui en 30 secondes ramassent l'affaire. La question de l'appréhension de la complexité, y compris de la reconnaissance du jeu des institutions dans la fabrique de la vérité, est un exercice pédagogique difficile dans l'univers médiatique actuel. Enfin, dans ces tournées de communes, et pour finir, j'ai découvert la volatilité de l'opinion et je me mets dedans, de l'opinion publique. Si il ne pleut pas depuis 10 jours, la question du changement climatique devient une question obsessionnelle. Et puis il pleut et une voiture brûle à Roubaix. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, Lorraine, Nancy. Et tout à coup, le sujet, pendant 2 jours, va être la violence. Il y a la veille, avant qu'il pleuve, c'était le changement climatique. Les médias font partie de ces faiseurs de temps, de beau et de mauvais temps, quel que soit le temps. Ils ont une responsabilité immense. Et je me dis que la question du temps long est une question énorme sur la priorité des questions qui doivent durer au-delà des émotions et de ce qui est fabriqué dans notre paysage. Enfin, et je déroge aux 10 minutes pour 10 secondes, j'étais très attentif dans un autre rapport que celui aux médias de notre démocratie, c'est le rapport à la science. Ils ont inventé le Muséum d'Histoire Naturelle, l'INRAE et des copains chez nous, tous chercheurs. Une manière pour les citoyens de réapprendre la science, l'esprit critique comme contribution au débat public. C'est extraordinaire. Moi, j'aimerais qu'on le fasse avec le spirituel et je trouve que ce serait une bonne idée de le faire avec les médias. Tous citoyens dans les médias.
Merci beaucoup, Dominique Potier. J'ai bien noté toutes les interpellations adressées aux médias. Je vais donc me tourner vers Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix. Alors, comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Dominique Potier et puis aussi ce que nous disait auparavant Guillaume Caline sur la question de ces médias et de cette campagne présidentielle où tout paraît un peu complexe.
D'abord, quand on a reçu les résultats de ce baromètre, au mois de janvier, quand Guillaume Caline nous a envoyé ces résultats, j'avoue qu'on a pris un petit coup au moral. Parce qu'évidemment, ça a été rappelé, la confiance est faible. Et puis on s'est repris parce que ça a été rappelé là aussi, les attentes sont très hautes. Autrement dit, votre débat d'aujourd'hui, quel est le rôle des médias dans la campagne ? Il a un sens très profond, les Français attendent quelque chose de nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que, moi ça fait une vingtaine d'années que je suis journaliste, et il m'est arrivé, et j'ai fait notamment beaucoup de journalisme politique, il m'est arrivé de me demander si j'avais encore un rôle dans un certain nombre de fonctions qui ont été rappelées à l'instant par Dominique Potier, à l'heure de l'avènement de l'information en continu et des réseaux sociaux. Quand Jean-Luc Poutier tout à l'heure a rappelé le climat délétère dans lequel nous nous trouvons depuis le début de cette campagne, enfin en réalité depuis quelques années maintenant, je me venais à l'esprit le climat général, le climat médiatique dans lequel nous nous trouvons depuis maintenant une quinzaine d'années. Nous sommes dans une grande crise de la parole publique. Là aussi c'est quelques banalités. Effectivement, l'avènement des réseaux sociaux à déstructurer l'espace dans lequel se fait le débat public. Les algorithmes qui trient les informations que les uns et les autres lisent sur les réseaux sociaux, mettent en avant les informations, les sujets à forte valeur émotionnelle, et cela a des conséquences. Cela a des conséquences. La circulation de la parole a des conséquences très concrètes dans des drames. Il n'y a qu'à refaire, par exemple, l'histoire depuis le début du drame qui a conduit à la mort de Samuel Paty, à l'assassinat de Samuel Paty. Tout cela pour dire que l'espace dans lequel s'organise cette campagne et notre travail de journaliste est particulièrement compliqué. Alors, confiance faible, attente très haute, mais c'est la très bonne nouvelle de ce baromètre, et là-dessus, je le notais à nouveau en écoutant Guillaume Caline. Attente très simple des Français. Ils ont des attentes très simples à l'égard des médias. Et là aussi, quand je reprends le baromètre, je me dis que finalement, on essaye, nous, de faire correctement notre travail, mais la feuille de route est simple. Qu'attendent les Français ? Que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées. Que les médias donnent la priorité à la qualité de l'information plutôt qu'à la recherche de l'audience. Que les médias et les journalistes soient indépendants du pouvoir politique, qu'ils soient indépendants des intérêts des milieux économiques, que toutes les opinions puissent s'exprimer, que les minorités, que les plus faibles aussi, puissent avoir voix au chapitre. Tout cela, c'est relativement simple sur le papier. Les modèles économiques ne nous y aident pas. Les modèles technologiques aussi ne nous y aident pas. Je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit à l'instant. Il y a une très forte attente pour un débat apaisé. Au fond, quand on regarde quel est le rôle des médias dans cette campagne, ça a été dit, encore une fois, c'est très simple, c'est la base de notre métier. C'est la hiérarchie de l'information, la vérification de l'information, la pédagogie sur l'information, l'explication, l'organisation du débat, voilà, fonction de trieur, fonction de pédagogue, fonction de modération, fonction de réassureur. J'aime beaucoup ce qu'a dit Dominique Potier sur ce rôle de tiers de confiance. C'est très important parce que bien souvent, je vous disais que il m'est arrivé depuis une quinzaine d'années de douter de l'utilité de ce métier à l'heure où voilà, mon métier est de transmettre de l'information d'un point à un autre. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de nous pour ça. On n'a plus vraiment besoin. L'information circule de manière quasi automatique, quasiment robotisée d'un point à un autre. Et pourtant, nous autres journalistes, je crois. Si nous faisons bien notre travail, nous n'avons jamais été aussi utiles comme tiers de confiance. Voilà, je pense que la mission qui est la nôtre, elle est extrêmement simple, c'est de favoriser la circulation d'une parole de qualité entre des personnes qui ne se fréquentent pas au quotidien. Voilà, bon, ça demande beaucoup de choses parce que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Ça demande évidemment de la méthode. Trier les faits, les commentaires, l'analyse, les opinions, tout ça sont des choses différentes et les présenter, les éditer de manière bien différente. Ça demande des moyens. Voilà, on a parlé de l'économie des médias, on a parlé de la concentration des médias. Il faut aussi parler du besoin de capitaux des médias aujourd'hui. Nous sommes dans des modèles économiques qui sont fragilisés et nous avons besoin d'investisseurs. Voilà, pour faire une information de qualité. Ça demande après de la rigueur, évidemment. Ça demande une posture aussi, sans doute. Peut-être avons-nous péché pendant très longtemps et péchons-nous encore par manque d'humilité par rapport à nos par rapport aux personnes auxquelles nous avons affaire. Moi, j'aime bien rappeler que un média. Étymologiquement, nous sommes au milieu. Nous ne sommes pas au centre. Au sens, c'est pas nous le sujet. Voilà, nous sommes au milieu de personnes qui nous font confiance, nos sources, en l'occurrence les politiques, et de personnes qui nous font confiance, nos lecteurs, nos lectrices, nos auditeurs, nos téléspectateurs, et nous sommes là pour faire en sorte que la parole circule correctement. Voilà, je terminerai par une réflexion qui est liée au contexte que je décrivais. On a entendu cette attente de débat apaisé. Un peu avant d'ailleurs qu'elle nous soit rappelée par le sondage de Kantar cette année. Au fond, nous à La Croix, on a en septembre dernier, on a lancé un appel pour rappeler que, au fond, la qualité du débat, du débat public depuis quelques années et dans cette campagne présidentielle en particulier, elle n'est pas seulement l'affaire des journalistes. C'est pas pour nous dédouaner, mais elle n'est pas seulement l'affaire des journalistes. Elle est l'affaire de tous parce que précisément aujourd'hui, tout le monde, nous avons accès à la parole publique par les réseaux sociaux, parce que nous formons des réseaux, effectivement parfois plus des réseaux que des communautés malheureusement. C'est en ce sens que nous avions en septembre dernier souhaité poser quelques évidences. Et je terminerai par là parce que ça m'a apparaissé des évidences. On avait l'impression d'enfoncer quelques portes ouvertes et puis en les diffusant, on nous a dit mais finalement c'est assez subversif. Je vais m'en rappeler quelques-unes. Il s'agissait d'engagement simplement au mois de septembre dernier pour cette campagne électorale, lutter contre les fausses informations, c'est évident. Ne pas attaquer la vie privée, préserver l'intimité, ne pas injurier, ne pas diffamer, ne pas humilier, refuser de transformer les réseaux sociaux en tribunaux populaires. Je vais pas tous les lister, il y en a une dizaine, ils sont sur le site de La Croix si vous voulez. Ce sont des évidences, mais malheureusement, je me rends compte que, comme nous l'avait dit l'un des signataires de cette tribune que nous avions proposée à un certain nombre de personnalités, il est parfois indispensable de rappeler les évidences. Parce que très rapidement, les puissances d'étouffement, j'aime beaucoup d'ailleurs la référence aux semeurs et aux cueilleurs, mais les puissances d'étouffement viennent étouffé complètement ces évidences qui pourtant nous permettent de vivre ensemble et de partager une parole commune.
Merci beaucoup Jérôme Chapuis. Je voudrais maintenant, on est toujours au Centre Sèvres dans cette soirée des mardis des typiques publics sur RCF, et je voudrais maintenant qu'on continue cette soirée en revenant sur un certain nombre d'idées que vous avez pu aborder. Guillaume Caline, vous avez évoqué le fait que les Français, et particulièrement les jeunes, se détournent de l'information et des médias et semblent ne pas s'intéresser à cette campagne présidentielle. Alors, je voudrais que chacun vous nous expliquiez pourquoi est-ce que c'est préjudiciable pour la démocratie ? Quelles peuvent être les conséquences pour cette campagne présidentielle ? Une élection qui n'intéresse personne, c'est quand même... et peut-être aussi à qui la faute ? Alors, Guillaume Caline.
Effectivement, cette question du désintérêt, elle est... De l'information, elle est assez cruciale par rapport aux politiques, parce que ce qu'on voit aussi dans les études, et c'est qu'il y a une forte corrélation entre le fait de s'intéresser à l'actualité et le fait de s'intéresser à la politique. Et les personnes qui disent s'intéresser à la politique sont souvent les mêmes que ceux qui disent s'intéresser à l'actualité. Et donc effectivement, le fait de moins s'intéresser à l'actualité montre un moindre intérêt pour la chose publique, pour ces questions-là, et sans doute après du... Par conséquent, le risque, en s'intéressant moins au débat, en s'intéressant moins à ce que les médias peuvent dire de la campagne présidentielle, d'avoir moins d'incitation à aller voter. Et on voit bien depuis des années dans la participation électorale. La participation électorale, elle fluctue énormément. On a tendance à penser que effectivement l'abstention augmente de scrutin en scrutin. Il y a une tendance. C'est pas si simple. Ça peut dépendre de beaucoup d'éléments. C'est vrai que les dernières séquences sont plutôt négatives, plutôt pessimistes, puisque les régionales et les municipales avant ont été marquées par une très forte progression de l'abstention. Sans doute lié au Covid, mais pas uniquement, parce que dans d'autres pays, on a eu des scrutins qui ont été marqués par l'épidémie, sans que pour autant il y ait une progression forte de l'abstention. Auparavant, sur les scrutins précédents, on a parfois eu des regains de participation, parce que les élections arrivaient à mobiliser sur certains marqueurs programmatiques, sur certaines thématiques là-dessus. Là, ici, ce désintérêt avec sentiment, effectivement, de saturation, d'entendre toujours peut-être les mêmes sujets ou les mêmes personnes, conduit à une prise de distance de l'actualité. Et sans doute après, le risque est effectivement qu'il y ait une moindre participation, et surtout à la présidentielle, alors que la présidentielle, elle conserve justement chez beaucoup de Français une réelle importance symbolique. Là, ce que montrent différents indicateurs et dont dont ce baromètre, c'est effectivement cette prise de distance à l'égard de l'actualité et donc à l'égard des médias. Si ça se traduit par une moindre participation à une élection aussi centrale que la présidentielle, ça augure mal après de la légitimité du pouvoir établi, après du risque aussi de contestation et de climat social plus général.
Dominique Potier, ça vous inquiète, ce désintérêt des Français ?
Évidemment, ces élections où il y aura de moins en moins de personnes qui votent, c'est une forme de tragédie. Je trouve que c'est une très grande tristesse. Ça pose la question de la légitimité de ceux qui sont élus, de la légitimité de ceux qui n'ont pas voté à contester celui qui a été élu. Enfin, c'est tout le pacte démocratique qui est fragilisé, les deux, quoi. Alors, les raisons, je sais pas, moi j'ai relayé un tweet de Gaël Giraud il y a un jour ou deux, jésuite, qui disait donc en 2040, 40% des points d'eau seront fragilisés. Je suis pas expert, mais ça veut dire qu'il y aura des problèmes d'eau dans près de la moitié des coins en France, quoi. Bon, il dit c'est un sujet, et en gros, il disait en quelques mots, comment est-ce qu'on peut vivre une présidentielle sans parler de la fragilité de notre maison commune, on peut le prendre comme on veut, du dérèglement climatique, des problèmes d'eau, etc. Comment il faut le dire, que les forêts qu'on voit aujourd'hui vont disparaître, etc. On devrait parler de ça. On devrait parler évidemment de la pauvreté, et on parle de tous les fantasmes identitaires et ces Zemmour qui semblent apporter ces thèmes et les mettre au centre du débat. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Je constate les dégâts. je constate les immenses dégâts. Et qu'est-ce qui est COP, en fait ? C'est une relation personnelle de qualité qui va recréditer une autre manière de faire de la politique, mais qui est liée à des relations interpersonnelles. Donc, c'est extrêmement fragile. Ce sont des îlots, des oasis. Et c'est, on est du niveau des colibris. Je ne cesse de dire qu'il faut dépasser le colibrisme pour refaire autre chose. Donc, je vais pas dire que c'est la solution.
Mais la réconciliation,
ça compte. C'est que les gens disent, on fait plus confiance dans la politique, mais on fait confiance à un tel parce que son éthique personnelle, son attitude, sa manière de faire, on la connaît, on la crédibilise. Et puis, d'autres à distance, parce que la définition que vous avez donnée, Jérôme, est très juste, c'est bien faire circuler de l'information entre des personnes qui ne se fréquentent pas au quotidien. J'avais jamais formulé ça comme ça, mais c'est à la force de l'évidence. Et bien, entre des personnes qui ne se fréquentent pas au quotidien, c'est une certaine qualité de média va rétablir un lien. Donc il reste aujourd'hui deux tensions positives dans la vie démocratique, c'est la relation de confiance interpersonnelle. Tu t'es personnel, c'est, alors, on est sur un territoire, on est sur une entreprise, une association, sur quelque chose, sur une communauté qui délègue et qui entretient un lien démocratique de qualité avec quelqu'un, fondé sur la confiance et la réciprocité. Et ça se fait dans certains réseaux à une échelle nationale ou internationale via des médias qui cultivent cette même profondeur de champ, qui est aussi une profondeur éthique, il n'y a pas de profondeur de champ politique sans profondeur de champ anthropologique. Donc il y a quelque chose de il y a des médias qui incarnent ça. Hein. On serait mal placé ici pour dire que c'est le cas de la Croix, ce serait gênant, on va le mettre en situation de gêne. Il y en a d'autres. Hein, c'est bon. Mais la qualité de certains médias peut suppléer à l'incapacité à vivre la confiance dans la relation personnelle. Mais ces deux éléments-là, et au-delà des médias, on pourrait dire certaines écoles, depuis les petites écoles, les grandes écoles, etc., il y a des lieux de communication qui rétablissent l'humanité dans sa responsabilité, dans sa dignité, et il y a des liens, il y a des oasis d'humanité. C'est très fragile par rapport aux vagues populistes qui arrivent et qui sont comme accélérés par les concentrations économiques et les ruptures technologiques non maîtrisées auxquelles nous assistons. Donc il y a une véritable alarme sur ce champ-là. Oui, je l'observe comme vous. C'est un véritable danger pour le fait démocratique. Le meilleur antidote, c'est d'avoir des citoyens éduqués. Fraternel et pris de fraternité. Ça, c'est l'antidote absolu à ces malheurs-là. Mais si vous avez la conjugaison d'une fragilisation de la citoyenneté dans sa dimension éthique, fraternelle, et une super puissance médiatique de destruction de la vérité, il y a une démocratie qui est en danger aujourd'hui. Ouais. Le phénomène Zemmour participe évidemment de cela.
Jean-Luc Poutier, vous voulez intervenir ?
Oui, une question qui est suggérée par ce que Dominique Poutier vient de dire à propos de la concentration. C'est un peu technique, pardonnez-moi, mais en 1974, entre les deux tours de l'élection présidentielle, a eu lieu le premier débat entre les deux candidats, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Ce débat a été analysé et des études quantifiées ont montré qu'il n'avait pas déplacé une seule voix. En 1994, en Italie, la campagne électorale a vu arriver un ovni dans le paysage politique, qui était Silvio Berlusconi, il avec un quasi-monopole des télévisions privées. Et les mêmes études ont montré que la campagne de Berlusconi à la télévision avait déplacé au moins 8% des voix. Dominique Potier a rappelé qu'aux États-Unis, les radios et les télévisions conservatrices ont joué un grand rôle dans l'élection de Donald Trump et dans tous les événements assez tragiques qui se sont déroulés au moment où il a dû quitter le pouvoir. Alors, à votre avis, dans la campagne qui vient, est-ce qu'il existe un risque que un certain monopole des médias par des grands entrepreneurs joue un rôle dans la construction, par exemple, de certains candidats dont on parle beaucoup, Éric Zemmour, joue un rôle dans le résultat final de ces élections.
La question, peut-être pour Jérôme Chapuis, la Croix a enquêté sur les réseaux d'un grand homme d'affaires médiatiques.
On a effectivement travaillé sur Vincent Bolloré. On a travaillé aussi sur cette période qui a précédé la candidature d'Éric Zemmour dans un papier de mémoire qu'on avait intitulé « La fabrique d'un candidat » au sens où, de fait, il y a un phénomène un peu artificiel dans l'émergence de cette personnalité, sans se concentrer forcément, parce que la question était plus large, sans forcément se concentrer sur Éric Zemmour, on constate que ce phénomène, il existe dans un certain nombre de pays. Moi, je ne me risquerais pas à un pronostic, parce que je pense qu'on est encore assez préservé. On n'est pas dans un monopole en France. Il y a encore un pluralisme. Alors, il y a un phénomène très français et qui est extrêmement préoccupant, c'est la concentration dans les mains d'un certain nombre de médias, dans les mains d'industriels qui peuvent par moment avoir des intérêts convergents. Voilà, c'est un sujet spécifiquement franco-français. En tout cas, sur le cas que vous évoquez, celui d'Éric Zemmour, il y a de fait un moment où la mayonnaise a pris et les médias, notamment CNews, ont joué un rôle. Voilà, ils ont joué un rôle en diffusant 24 heures sur 24 quasiment, en organisant. On dit beaucoup, vous savez que les personnes qui gagnent une élection sont souvent celles qui arrivent à imposer leur thématique. Voilà, et ça, elles le font avec non pas la complicité, mais voilà, avec les médias en les utilisant, éventuellement en les instrumentalisant. Voilà, donc là, en tout cas, sur ce phénomène-ci, il y a sur cette période-là, il y a une évidence que ça n'aurait pas été possible sans quelques chaînes de télévision, sans le phénomène de l'information continue. Mais globalement, je reviens sur le climat, le contexte, l'espace public dans lequel nous évoluons, qui est très très déstructuré depuis quelques années maintenant. Et je rebondis d'ailleurs sur les attentes très hautes des Français, sur la déception aussi qu'ils éprouvent à la fois à l'égard des médias et des politiques, sur leur désintérêt par rapport à l'actualité. Il y a aussi des contradictions chez les Français. Ils ont des attentes très fortes à l'égard des médias, mais les audiences, on sait où elles vont. Ils vont plutôt aller regarder le soir Cyril Hanouna carté. On a tous nos contradictions. Tout le sujet, c'est que cette tentation que nous avons tous, elle est particulièrement encouragée aujourd'hui par le modèle économique qui structure aujourd'hui les médias. Je veux parler évidemment de celui économique des réseaux sociaux, voilà, qui favorise objectivement encore une fois l'émotion, et puis effectivement le modèle économique de la chaîne d'information en continu, qui parce qu'il a besoin de produire beaucoup d'heures d'antenne en direct pour peu cher, favorise des débats dans lesquels le clash est quasiment permanent. Et attention, restez avec nous, parce qu'après la publicité, il va encore y avoir un clash. Vous voyez, donc on est finalement, je pense pas qu'il y ait d'intentionnalité derrière tout ça. Et je au risque d'être un peu provocateur, je pense qu'on peut même prendre Vincent Bolloré au sérieux lorsqu'il dit devant les sénateurs il y a quelques jours que son projet n'est pas forcément politique, il est d'abord et avant tout un projet de business. C'est comme ça qu'il l'a dit. Peut-être qu'on peut le prendre au sérieux, parce qu'effectivement c'est une économie qui fonctionne bien. Et entre nous, qui fonctionne un petit peu mieux aujourd'hui que celle de la presse écrite. Voilà. Je terminerai juste en relevant ce que disait Dominique Potier sur le temps, sur l'importance du temps, sur le fait que ça prend du temps d'expliquer la complexité. Ça prend du temps aussi de lire un journal. Ça prend plus de temps de lire un journal que de regarder un clash à la télévision sur une chaîne d'infos en continu.
Peut-être revenir sur la concentration des médias. Est-ce une pente inéluctable ? Et là, je me tourne vers le législateur. Dominique Potier, est-ce que le législateur a le pouvoir d'inverser la tendance? On vient d'évoquer l'audition de Vincent Bolloré au Sénat. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour contrer ça?
Je travaille sur les questions d'aménagement du territoire, oui. Économie, écologie. Hein, je vais sûrement dire des bêtises ou des banalités et vous ne m'en voudrez pas. Moi, j'ai été... on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on... Voilà, on n'a pas le temps. Mais quelqu'un m'avait suggéré, venu de la société civile, la création d'un fonds associatif. Il dit, bon, il y a la télévision publique, il y a la radio, les radios publiques, bon. Il y a les radios privées avec des phénomènes de concentration qu'on a décrits. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pôle constitué à un fonds financier ? J'avoue que si j'ai la chance de continuer après juin, c'est quelque chose qui m'intéresserait de lancer l'idée, hein. C'est à des collègues qui pourraient le porter. Est-ce qu'on ne pourrait pas constituer un fonds à partir de l'économie sociale, le monde mutualiste ? Il y a des fonds qui existent, des fondations, etc., qui constituent une forme de garantie de pluralisme dans les médias. Et il y aurait le service public, il y aurait une forme... d'économie sociale, hein, fondée sur, je sais pas, les fonds des mutuelles, etc., pour être investi là, soutenir un pluralisme médiatique, une qualité, etc. Et puis, il y aurait le monde du privé, avec le meilleur et le pire. Ça me paraît un premier point de rééquilibrage. C'est-à-dire que nos sociétés, dans l'économie, comme dans l'économie des médias, qui n'est pas qu'une économie, ont tendance à s'appuyer sur ce trépied. De façon, même si ce n'est pas mon choix de société, le fait qu'il y ait un libéralisme, une liberté, etc., c'est l'encadrer, pourquoi pas. Il y a l'État, et entre les deux, il n'y a pas le vide. Il y a quelque chose qui procède de l'association.
C'est un peu ce qui se passe pour les radios, où il y a des radios privées, des radios d'État public et des radios associatives. C'est une parenthèse.
Oui, tout. Je connais bien, je sais, il y a 25 ans, 35 ans, voilà, on a fondé une, et je connais ce modèle-là. Effectivement, c'est un peu RCF participe de ça, etc. Bon. Donc ça, c'est une première piste. Deux, il y a la question de la régulation de la publicité et du marché financier. Ça ne me paraît pas être un petit sujet. Moi, je travaille beaucoup sur les questions d'alimentation, santé du sol, santé des gens, etc. La question, je prends le sujet à l'envers, mais la question de la pub, et je le dis, c'est pas un combat contre ce gouvernement, parce que sous le précédent, on n'avait pas obtenu gain de cause non plus. On sait les problèmes de diabète T2, d'obésité, enfin, maladie chronique, hein, c'est énorme, c'est un sujet énorme pour la sécurité sociale, la santé, tout simplement, etc. C'est pas que lié qu'à la télé et aux médias, parce qu'il n'y a pas que les médias, il y a les tablettes, il y a toutes sortes de supports publicitaires. N'empêche que cette injonction permanente à consommer gras, sucré, etc. et tout, touche notamment les publics qui n'ont pas l'antidote culturel, familial, l'environnement qui, hein. Donc, on en a décrit un modèle. On sait que ces produits-là, une fois qu'on les a pris, créent une sorte d'addiction. Enfin bref, on fabrique par l'imaginaire, etc. Je prends un segment, il y en a plein d'autres, hein, de la pub, celui-là, qui fait assez consensus. Les gamins, la santé, tout le monde est d'accord. Bon, je m'en sers. Mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur la pub, comme fabrique des imaginaires. Cette publicité, elle est un vecteur puissant de financement des médias. Et elle est à la fois une puissance en tant que telle, et elle fabrique indirectement une puissance de concentration qui est loin d'être une économie de marché loyale, où tout le monde joue à jeu égal, etc. Donc je pense qu'il y a une régulation du marché de la publicité qui serait une sorte d'assainissement du contrôle de nos imaginaires, et par ailleurs, peut-être une régulation de ce marché qui évite que des phénomènes de concentration, Jérôme évoquait des industriels des médias, mais aussi des industriels qui, par leur donneur d'ordre de publicité, peuvent faire des rois, sont des faiseurs de rois et de princes dans les médias. Donc cette conjonction de force mérite d'être regardée par le législateur. C'est quand même stupéfiant. On est dans l'idolâtrie du marché. Enfin, je veux dire, on est complètement dans l'idolâtrie. C'est-à-dire les mêmes qui s'offusquent du... Je ne vais pas rentrer sur le débat, je fais attention à ce que je dis à ce moment-là. On s'offusque de toute atteinte à la laïcité venant d'une expression spirituelle, ça devient une sorte de lieu commun que de ne tolérer rien du tout en la matière, et on consent, et une sorte de consentement absolu à une idolâtrie du marché sous la forme de la maîtrise des imaginaires et des concentrations financières qu'elles permettent, etc., en boule de neige. C'est assez stupéfiant. Il faudrait qu'on décide, que nos yeux soient déciliés, et qu'on regarde qui aujourd'hui est maître du monde, c'est-à-dire maître de nos imaginaires, etc. Donc ça, c'est le deuxième biais, qui est une montagne, vous l'avez compris. Et le troisième, je reviens là-dessus, la meilleure antidote, c'est quand même des citoyens éduqués et libres et fraternels. C'est-à-dire que la question de cette Big Brother n'a pas de prise sur des citoyens, sur des hommes libres. Donc on doit fabriquer des hommes libres et fraternels. Et de façon égale, c'est l'idéal républicain. Et ils seront résistants à ces puissances-là. Sinon, ils deviendront des... Voilà. C'est... Moi, J'ai pensé, moi, toujours que la République, et pour ma part la gauche, mais ça d'autres l'appelleront autrement, peu importe, c'est le travail du dimanche et la marchandisation du dimanche. Plus, c'est pas un fait religieux, c'est un fait social. Et parce que c'est un fait social profond, c'est aussi un fait religieux, mais je le prends pas d'abord comme un fait de la religiosité, je le prends comme un fait social majeur. En marchandisant, en fragmentant nos agendas, le temps et l'espace, en évitant tous les temps de gratuité et les temps de commun, on nous met à merci d'une forme de servitude marchande. J'en suis persuadé. C'est-à-dire, on en fait de nous des individus qui sont en fait plus asservis quand ils forment des communautés pensantes, dialoguantes et résistantes par là même à des puissances qui ne leur veulent pas que du bien.
Guillaume Caline, on approche à la toute fin de cette rencontre. Pour vous, quelles sont les clés pour que les médias retrouvent la confiance des citoyens ?
Si j'avais la solution, je pense que je serais riche. En fait, je pense que la crise, elle est plus... Enfin, c'est là où évidemment la question est compliquée, c'est qu'elle est plus profonde que ça. Je pense qu'il y a une grande part dans la crise de confiance des Français à l'égard des médias. En fait, une crise plus globale de confiance à l'égard des institutions en général, à l'égard de la confiance aussi que les Français peuvent avoir à l'égard des autres. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, le niveau de confiance des Français à l'égard des médias, il est parmi les plus bas d'Europe. C'est aussi les Français qui ont le moins de confiance en l'égard des partis, des syndicats, envers les autres aussi. Quand on demande aux Français, est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance en général à la plupart des personnes où on n'est jamais trop méfiant ? Eh bien, les Français sont aussi les Européens qui pensent qu'on n'est jamais trop méfiant. Donc, c'est effectivement quelque chose de plus global et qui a des racines très, 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 très profondes. Donc, je pense que ce serait difficile là de résumer tout ça en quelques instants. Là où peut-être qu'il y a une source d'optimisme à avoir sur ce sujet-là, c'était justement dans le baromètre La Croix de l'an dernier. On avait posé des questions aux Français sur qu'est-ce qu'ils attendaient des médias. De manière générale, est-ce que c'était d'abord s'informer sur ce qui se passe à côté de chez eux ou loin? Est-ce que ça permet est-ce que c'est pour se forger une opinion, etc. Et après, on leur demandait si les médias qu'ils suivent le plus leur permettent justement d'accomplir chacune de ces choses. Donc, on n'était pas sur les médias en général, mais sur le média qu'ils suivent le plus, en qui ils ont confiance. Et là, les résultats, en fait, étaient assez positifs, parce que sur l'ensemble des dimensions, finalement, les Français avaient le sentiment que leur média, celui qu'ils suivent, ben, finalement, il leur permet quand même de répondre à ces enjeux-là, et ce qui explique aussi pourquoi, finalement, malgré la crise et les déceptions, les Français continuent de s'informer quand même dans l'ensemble et continuent de faire confiance à leurs médias, à certains médias. C'est vrai que, par exemple, la presse quotidienne régionale, elle a des niveaux de confiance ou d'image assez élevés, parce que c'est un média de proximité en lequel on a le plus facilement confiance.
Jérôme Chapuis, pour terminer, tout n'est pas perdu ?
Ah non. Et je crois que, peut-être au risque de me contredire par rapport au tout début de notre échange, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de journalistes et jamais eu autant besoin de bons journalistes, de médias, pour réassurer la parole publique, parce qu'elle a besoin d'être réassurée. Vous savez, on a dit la vérité était la grande victime de la décennie qui vient de s'écouler, avec l'ère de la post-vérité, les fake news, etc. Ça vient d'être rappelé par Guillaume Caline. La vraie victime, c'est la confiance. Et donc, c'est à nous, notamment les journalistes, pas seulement, hein, c'est tout un écosystème, mais c'est à nous que revient notamment de prendre soin de ce qui fait le ciment de la société, c'est-à-dire la confiance.
Eh bien, c'est à François Hevé que revient le difficile exercice de conclure ce temps de rencontre et de dialogue et d'échange sur la responsabilité des médias, la place des médias dans cette campagne présidentielle.
C'est peut-être moins une conclusion que quelques remarques qui me sont inspirés par les propos entendus, qui soulèvent évidemment de nombreuses questions. Ce qui me semble, c'est qu'à l'horizon de nos propos, finalement, c'est toujours la question de comment faire du commun avec la diversité que nous représentons. On sent qu'il y a ce besoin, et on sent qu'il y a une aspiration aussi dans la société. Ce que je retiens de ce sondage, c'est ce qui a été dit, du reste, l'attente des débats apaisés, mais l'attente surtout d'un vrai débat démocratique, l'attente et ce qui signifie le désir de faire société, tout en respectant les particularités des uns et des autres. On est très attaché à nos particularités, au risque peut-être de la méfiance, mais enfin, ça accompagne cet élément-là. Et peut-être en soulignant, on l'a peut-être pas suffisamment fait, mais ça aurait été intéressant d'y revenir, sur la place des médias de proximité, la place de la presse locale en particulier. Et j'ai l'impression qu'on observe dans le champ des médias ce qu'on observe finalement dans le champ politique, c'est-à-dire une grande méfiance à l'égard de la politique nationale, que les débats finalement, même s'ils sont indispensables bien sûr, mais et en revanche, plus d'intérêt pour ce qui se passe au niveau local. Il faut apprendre de voir que beaucoup de personnes ont plutôt envie d'investir au niveau local qu'au niveau national, mais ça peut être un tremplin. En tout cas, on peut s'appuyer sur cette perspective-là, tout en étant conscient que, comme ça a été souligné, les sondages montrent un grand intérêt pour les débats apaisés, pour les débats argumentés, etc., mais on se précipite sur les combats de catch, parce que c'est plus spectaculaire. C'est l'émotion aussi qui intervient là-dedans. Peut-être une dernière remarque aussi que je relève dans les propos, c'est l'importance de l'éducation. L'éducation, c'est ce qui finalement nous conduit à faire quelque chose que spontanément on n'est pas porté à faire. L'éducation, c'est un processus. L'éducation, à la fois, elle révèle ce que nous attendons. Les enfants à l'école sont passionnés parce qu'il y a une curiosité. Mais en même temps, il faut qu'on ne flatte pas leur sentiment immédiat. Il y a toute une démarche qui peut parfois être exigeante, difficile. Bon, qui peut mettre en œuvre cette éducation dans le champ des médias? Voilà, c'est une question que je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce mot, cette perspective d'éducation, surtout que nous sommes dans un monde complexe, Dominique Potier l'a souligné, il faut un certain temps pour expliquer certaines questions. Je pense que la question de la COP26, ce n'est pas des questions qu'on peut expliquer en 30 secondes, évidemment, mais je crois qu'il y a une vraie attente. Enfin, la Convention citoyenne pour le climat a bien montré que des gens étaient prêts à prendre du temps à entendre des explications d'experts complexes parce qu'il y a un sentiment qu'il y a un enjeu derrière. Je crois que comment s'appuyer sur ces attentes, c'est ça l'enjeu à venir, des temps à venir.
Merci beaucoup François Heuvé pour ces mots de conclusion. C'est la fin de cette rencontre des mardis d'éthique publique consacrée aux médias dans la campagne présidentielle. Merci à Guillaume Calir de Kantar Public, merci à Jérôme Chapuis de La Croix et au député Dominique Potier. Et puis bien sûr merci à Jean-Luc Poutier et François Heuvé qui ont préparé cette rencontre des mardis d'éthique publique au Centre Sèvres. Ça n'est pas fini. Mais moi, j'ai fini mon job.
Alors, je crois que c'est moi qui prends le relais. Voilà. Donc, nous avons maintenant un temps de questions d'à peu près une demi-heure. Donc, il y aura des questions qui vont venir des participants qui ont suivi attentivement par la voie numérique. Mais il y a aussi, en notre priorité, des questions de la salle. Comme d'habitude, nous prenons deux ou trois questions. Il y a une main qui se lève déjà à ma droite. Donc, nous allons prendre deux ou trois questions.
Oui, j'ai bien aimé quand on a parlé des médias comme permettant de la rencontre de gens qui ne se rencontrent pas. Et ce que j'aime bien dans La Croix, c'est justement le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs permet qu'il y ait une rencontre entre journalistes et lecteurs et entre lecteurs entre eux. Et quand je travaille avec Le Monde et que je les engueule pour leur dire « vous n'avez plus de courrier des lecteurs », je n'ai des réponses de Van Cotte qui me dit « on avance, on va faire des choses, etc. » Ça fait un an que je le talonne et donc je remercie La Croix de ne pas se désespérer. Le Monde me désespère.
Merci. Alors, deuxième intervention ou question, voilà dans le fond.
Ce soir, c'était intéressant, mais il y a quelque chose qui m'irrisse, me choque. On n'a parlé que d'une seule personne, pas uniquement, Éric Zemmour, quand est-ce qu'on va s'arrêter de lui faire de la publicité ?
Merci. Y a-t-il une troisième question ? Ah oui, alors derrière, oui. Et puis on viendra devant ensuite. Voilà, une troisième question derrière et nous viendrons ensuite devant.
Bonsoir. Moi, je voulais interroger M. Chapuis en tant que directeur de la rédaction de La Croix pour avoir son sentiment sur le rôle des journalistes dans le phénomène que vient d'évoquer le questionneur précédent. Parce que Zemmour ne serait pas à 14% d'opinion favorable si on n'en avait pas parlé comme on en a parlé depuis 6 mois, pour ne pas dire 1 an.
Merci. Alors, bon, beaucoup de questions sont plutôt dirigées vers Jérôme Chapuis, mais enfin, ça n'empêchera pas les autres personnes, si elles veulent rebondir sur intervention aux questions. La première était moins une question qu'une intervention, un apport.
J'irai quand même un mot tout à l'heure quelque chose sur le courrier des lecteurs, mais sur Éric Zemmour, le phénomène, comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, est largement lié évidemment à. J'ai parlé de phénomène artificiel, et je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de. Pardon pour la métaphore culinaire, mais c'est de la mayonnaise qui à un moment prend, et effectivement il y a des instruments et nous en faisons partie et nous sommes instrumentalisés, parfois piégés avec cette question qui n'est pas nouvelle, hein. Moi j'ai commencé, Jean-Marie Le Pen était là, et alors à chaque fois qu'on parlait de tel ou tel sujet, on dit faut pas en parler, vous faites le jeu du Front National. Vous faites le jeu du Front National, en parler, ne pas en parler. La Croix a dérogé à une règle, après avoir discuté en comité de rédaction, à propos d'Éric Zemmour. La Croix, en général, ne prend pas parti dans le débat politique pour tel ou tel candidat, sauf en deux circonstances, en 2002 dans l'entre-deux-tours et en 2017 dans l'entre-deux-tours, pour des raisons que vous pourrez consulter, c'est dans les éditoriaux, qui tiennent à ce qu'est ce journal. Nous avons choisi de prendre parti très rapidement, non pas contre Éric Zemmour en tant que ce qu'il est, mais dans un premier temps parce qu'il, contrairement à ce qui avait pu être dit justement à propos du Front National et de Jean-Marie Le Pen par Laurent Fabius, souvenez-vous, disait « il apporte de mauvaises réponses à de bonnes questions ». Nous avons jugé qu'Éric Zemmour était, quand je parle de la qualité de la qualité du débat, n'apportait pas ne posait pas les bonnes questions et ne contribuait pas à la qualité du débat. Donc c'est d'abord pour ça. Donc on a pris position contre lui. Ensuite, on a repris position à un autre moment pour dire qu'effectivement c'était troublant de voir qu'il y avait un écho. Parce que ça, pour le coup, on ne peut pas l'ignorer. Il y a et ça n'est pas complètement artificiel. C'est-à-dire que dans ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, je parlais de la crise de la parole publique, mais il y a quand même une crise sociale très profonde dans ce pays. Il y a une déconnexion, il y a une mondialisation, il y a une déconnexion entre les élites et une partie très importante des Français, gilets jaunes, etc. Je reviens pas dessus, c'est pas le sujet de ce soir, mais de fait, ce phénomène révèle aussi quelque chose. Donc de ça, il faut que nous en parlions. Donc vous voyez, on est instrumentalisé, on est piégé. À un moment donné, on se doit quand même d'en parler, à notre corps défendant peut-être, mais on se doit d'en parler. Et pour le reste, moi, tout est une question, là, pour le coup, quand il s'agit de tenir une ligne, la ligne éditoriale, tout est une question de dosage. Et s'il y a quelque chose qui, moi, m'échappe complètement, c'est le dosage que le système médiatique, parce que nous faisons système, voilà, c'est comme ça, que le système médiatique met
sur telle ou telle problématique. Moi, je sais quel est le dosage que nous avons effectué pour sur la question Zemmour à la Croix. Voilà, on a mis les curseurs à un certain niveau. On a dit voilà, on en parle à tel moment, on règle ça au quotidien. Voilà, dans nos conférences de rédaction, on arrive là, attention, on en parle. Hier, on en a parlé, on va pas en reparler aujourd'hui. On dose, mais après le dosage du système médiatique, moi, il m'échappe complètement et il échappe en fait à tout le monde. Il échappe à tout le monde. Voilà. Juste un mot sur le courrier des lecteurs. Nous, on y tient beaucoup. Ça demande des moyens. Il y a 4 personnes qui travaillent à temps plein. 4 personnes qui travaillent à temps plein à la Croix. Mais on y tient beaucoup parce que on pense que derrière tout projet éditorial, il y a précisément une rédaction, un collectif qui partage une vision du monde, enfin une manière de regarder le monde avec des lecteurs. Donc c'est pour ça qu'on continue et on continuera à avoir un courrier des lecteurs à la Croix.
Merci. Alors, nous continuons dans la relevée des questions. Il y avait une main qui s'était levée devant. Ah oui, derrière, et ensuite, on va venir devant. Ne vous inquiétez pas.
Bonjour à tous. Pour donner un petit peu de contexte à ma question, moi, j'ai 23 ans et je suis venu ici grâce à Twitter. Comme ça, il n'y a vraiment pas de doute sur qui je représente. Mais j'avais juste une petite question par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Chapuis. Vous avez dit que les attentes des Français étaient simples. Et moi, je pense que c'est assez marquant. Et je voulais reprendre un phénomène dont on a parlé il y a quelques semaines. On ne parle quasiment plus aujourd'hui. C'était le phénomène de l'application Élysée, qui, pour ceux qui ne savent pas, présentait, comme l'application Tinder, les programmes des candidats. Et je trouve que c'était... Alors, on peut critiquer l'application, mais en tout cas, le format était simple, accessible à tout le monde, et permettait de voir... une des aspirations des Français qui était voir les programmes et faire des choix. C'était quand même assez simplement fait et il n'y a aucun média en tout cas qui moi m'a permis de le faire. L'application n'est pas super mais en tout cas l'application l'a permis. Et je me pose la question du coup, c'est à la fois pour vous Monsieur Chapuis et aussi Monsieur Potier. Alors pour vous ce sera plutôt, est-ce que vous réfléchissez à des nouveaux formats parce que honnêtement c'est peut-être compliqué à dire, mais quand on est jeune aujourd'hui, c'est dur de lire, de prendre le temps de lire, parce qu'on est, né dedans et on est assailli par beaucoup d'informations. Et Monsieur Potier, est-ce que vous réfléchissez aussi à différentes formes dans votre manière de vous exprimer ou pour aller chercher ces jeunes, justement pour les relier aux médias et à l'information plus qu'aux médias finalement, à la bonne information.
Voilà. Merci. Alors, nous allons descendre tout devant. La dame lève la main depuis déjà un quart d'heure. Voilà. Relevez la main pour qu'on vous voit. Voilà.
Bonjour. Non, je me posais la question. Aux précédentes présidentielles et législatives, on avait beaucoup parlé de dégagisme. C'est un grand phénomène qui avait quand même été assez surprenant et qui avait renouvelé très rapidement tout un personnel politique. Je voulais savoir si ce phénomène peut ressurgir ou c'est vraiment c'est très typique des années 2017.
Merci. Une troisième question, tout de suite ou... Bon, déjà, la première était substantielle et adressée à plusieurs personnes. Là, le dégagisme, voilà, c'est pour Guillaume Caline. Alors, je ne sais pas, Dominique, peut-être sur les nouveaux formats, nouvelles formes d'expression.
Et moi, je suis pas du tout expert en médias et je suis un praticien moyen, enfin plutôt oui, moyen moins quoi. Je suis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire je crois beaucoup à la présence sur le terrain. Et puis on a mes collaboratrices qui sont plutôt plus jeunes me disent que c'est assez archaïque, mais on a une lettre d'information qui paraît toutes les semaines. C'est réglé comme un métronome. On choisit 3-4 sujets, un sujet de fond, un peu perspective, 3 sujets d'actualité. Qui illustre parfois une thématique, parfois une mosaïque, qui explique allez, 10% de ce qu'on fait dans la semaine, parce qu'on est plutôt actif, quoi. Hein. On essaie d'illustrer. Mais on ne sait pas faire moins que 1000 signes. Et ils me disent, y compris mes enfants, ils disent, mais enfin, il faut faire du 100 signes, il faut mettre des machins, des trucs. Moi, c'est laborieux, j'essaie d'expliquer. Voilà, bon. Puis tous les ans, on fait un document pédagogique qui est un vrai travail rédactionnel, pour le coup, vraiment de rédaction de fond, qui donne du sens. Et c'est André Chassaigne, le copain communiste, là, qui m'a dit, qui m'a dit qu'il trouvait ça intéressant, je vous en laisserai un exemplaire, parce qu'il y avait un travail de rédaction par thème, avec une mise en perspective des débats nationaux et de ce qu'on fait localement. Hein, c'est en politique de santé, sur les 1000 premiers jours de l'enfant, le gouvernement a fait une bonne politique, on le salue, et on dit, bah, nous, localement, dans nos crèches, avec l'hôpital, la maternité, on travaille à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, machin, etc. Bon. On évoque voilà, donc, des sujets un peu sur les pesticides, 10 ans de bagarre, le rôle de la science, le débat public, les paysans, la nourriture, ça, voilà. On explique. Voilà. Donc, on fait de la pédagogie, on renvoie des documents, on essaie de faire ça. Je ne sais pas si les gens le regardent. Hein. Nous, tous les ans, on met ça dans les boîtes aux lettres. C'est des bénévoles qui distribuent. Et puis, tous les ans, et puis on fait du tweet et du Facebook qui reprend un peu tout ça. Bon, voilà, on est là-dedans. Alors, c'est pas les nouveaux instruments. C'est pas hyper réactif. C'est pas, je ne rebondis pas sur l'actualité tout le temps. Parce que je dis aux gens, on n'est pas des commentateurs. Quoi. Ah, c'est fou, parce qu'il y a des politiques qui deviennent des commentateurs. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à commenter ce que disent les médias. Et ce que disent d'autres politiques. Et quand un collègue, même bien intentionné, sympathisant, me dit « Mais en fait, tu n'as pas réagi à ça ?» Je ne sais pas que je m'en fous, mais les journées font 24 heures, on dort peu, et puis je me concentre sur le boulot qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'on porte 2-3 thèmes dans une législature. Moi, je travaille sur l'accaparement des terres, je ne vais pas réagir tous les 5 minutes parce qu'il y a eu un accident. Voilà, on travaille sur le travail des enfants dans les multinationales, on ne va pas s'intéresser tout à coup à la crise à Sciences Po Lyon. Enfin, je sais pas, à un moment donné, on est quand même des coureurs de fond, et puis on est des généralistes sur nos territoires et on participe au débat. Mais c'est un peu la même chose, si vous voulez, quand autour du vax, il y a une sorte d'accélération autour du vax de ces questions médias, point de vue, radicalisation, François évoquait les matchs de catch là-dessus, ça aide pas. Moi, je rêvais, je vous dis juste un truc de médias que je rêvais. C'est les gamins, quand ils étaient petits, ils écoutaient l'émission qui expliquait tout pour la science, là, comment ça s'appelle ? Jamy.
Ouais.
Comment ça s'appelle ?
C'est pas sorcier.
C'est pas sorcier. Moi, j'ai dit à Olivier Véran d'envoyer que le président a abandonné ce test parce qu'il nous expliquait comment il fallait sortir, pas sortir, tout ça, tout le temps. Ça, c'était un peu le maître d'école ou le médecin de famille. Alors, il y a ceux qui n'aiment pas Macron. Moi, j'ai pas de problème personnel. Enfin, ça me donne pas des boutons quand il intervient, quoi. Mais j'en sais qu'il y en a que ça agace et que c'est contre-productif. Puis c'est pas bon dans la démocratie que tout le monde fasse tout, quoi. Voilà, qu'un seul fasse tout, quoi. Bon. Ah, en marche, c'est un peu ça, c'est une pyramide, comme dit Jean-Louis Bourlange, dont la base est le sommet, hein, c'est un peu ça. Donc, je pense que par rapport aux irréductibles, si on a une chance de les atteindre, il faut faire parler des univers différents et des scientifiques qui dialoguent avec des gens, qui leur posent des questions. Il faut créer un climat apaisé de gens repérés comme en qui on a confiance et puis qui nous explique d'où vient le vaccin, l'ARN c'est quoi, le Pasteur, machin, qu'on fasse histoire et en Éthiopie c'est comment et chez nous, etc. Bon. Et puis qu'on ait une grande émission populaire sans... Alors quand je dis sans politique, c'est plutôt le temps de la pédagogie de la science, mais à un moment donné, il fallait arrêter parce qu'on sentait que ça devenait une instrumentalisation du débat médiatique avec des calculs sous-jacents sur je clive, je profite, je récupère, je martyrise et tout. Et nous, au milieu... médiateur de la démocratie, on a des injonctions. J'ai répondu encore à quelqu'un aujourd'hui là sur un mail en disant qui me demandait de répondre très précisément à telle étude scientifique parue en Transylvanie, à une déclaration secrète du professeur machin tout. Et je lui dis, moi j'ai confiance dans les institutions, je vais faire 3 pages de réponse envoyées à 800 personnes, je ne vais pas me refaire à une commission d'enquête parce que tu m'interpelles sur ce que vous m'interpellez, sur ce qu'il vous apparaît comme tout est pourri, il y a des complots partout et tout. Donc on était sur une sorte d'hystérie et il faut remettre donc face à l'hystérie de la pédagogie, de la clarté, remettre de la lumière, réexpliquer les processus. Moi, j'aime beaucoup l'idée de processus, c'est ça. Donc, mais les processus, c'est pas la mode aujourd'hui. En 10 secondes, on raconte pas un processus, on raconte... je crois beaucoup dans la parole du pape François qui dit « partez des périphéries et deux, choisissez des processus ». C'est deux choses qui me guident profondément dans l'action politique, quoi. Le processus, c'est du temps long, c'est du « avec les autres ». Et ça produit pas des effets immédiats, ça produit pas d'effets médiatiques. Mais c'est la seule chose qui est féconde, in fine, quoi. Donc voilà comment on se débrouille dans cet univers-là, quoi.
Jérôme ?
Un mot. D'abord, merci d'être là et d'être arrivé ici par Twitter. C'est très important pour nous. Je rappelle que quand on pose la question à aux personnes de moins de 40 ans, savoir si elles ont lu dans Le Quotidien sur le papier depuis un mois, 1 sur 100 répond oui. Voilà, donc on est là aujourd'hui. Évidemment, l'information, elle circule complètement différemment. On en parlait juste avant, d'ailleurs, le débat avec Stéphanie. Voilà, c'est vrai que nous sommes surtout en contact avec l'information sur nos téléphones portables, notamment. D'où, effectivement, l'importance d'un certain des formats. Sur l'application en question, parce que je pense qu'on ouvrirait un autre débat. Il y a aussi des limites importantes. Hein, voilà, dire que nous, on porte une attention particulière, évidemment, à la forme, au format, que pour nous, l'information, elle doit être attrayante, mais attention, dans une limite, l'information n'est pas un divertissement. Je pense que, voilà, ce qu'on vit aussi encore aujourd'hui, je ne vais pas reparler de Cyril Hanouna, si, ça y est, j'en ai reparlé, mais c'est évidemment la confusion entre l'information et le divertissement, l'infotainment, qui a déferlé depuis une vingtaine d'années et qui brouille quand même beaucoup de repères. Voilà, l'information, elle doit être attrayante, mais elle n'est pas un divertissement. Et puis, si vous me demandez les nouveaux formats, je suis très embêté parce qu'en quelques secondes, du coup, je suis obligé de vous faire de la publicité parce qu'on n'arrête pas d'y réfléchir. Et hier matin, on a lancé, nous, à La Croix, précisément un nouveau format numérique où on propose 3 fois par jour quelques articles, en fait. 7 le matin, 5 à midi, 5 le soir, en partant du principe que les gens ont peu de temps. On n'a pas tous le même rapport à l'information. Il y a des gens qui ont le temps de lire le journal, et puis il y a des gens qui prennent le métro le matin. Quand on a des enfants, c'est pas hyper pratique, donc voilà, j'ai 10 minutes. Et donc nous, notre rôle, c'est justement d'aller les rejoindre là où ils sont, quand ils sont disponibles, en leur donnant effectivement des informations qui sont susceptibles de les ouvrir et de les rejoindre dans leurs préoccupations du jour.
Alors Guillaume Caline, y a-t-il du dégagisme dans l'air?
Un petit peu. Effectivement, alors en 2017, on parlait beaucoup de dégagisme parce que, en dégagisme, on pense aussi à sortir les sortants. En 2017, pourtant, il n'y avait pas de sortants, mais pour autant, ça a été l'élection du dégagisme parce qu'effectivement, la droite et la gauche qui s'étaient partagé le pouvoir depuis des décennies, finalement, n'étaient pas présentes au second tour. Pour 2022, je dirais qu'effectivement, le dégagisme guette un petit peu parce que même si Emmanuel Macron est plutôt populaire par rapport à ses prédécesseurs à la même période de son quinquennat, on sent qu'il y a quand même un rejet assez fort dans une partie de la population. Marine Le Pen, elle n'est pas non plus à l'abri du dégagisme d'une partie de ses électeurs en faveur de celui dont il ne faut plus trop prononcer le nom ce soir. Donc je dirais qu'effectivement le dégagisme guette, mais ce qui est peut-être un autre danger, là, c'est plutôt l'indifférencisme, si on peut se permettre ce néologisme, parce qu'effectivement ce qu'on voit, c'est que cette campagne, elle n'accroche pas vraiment une grande partie des électeurs.
Alors s'il n'y a pas de questions des auditeurs YouTube, donc plus RCF mais YouTube. S'il reste encore, donc à quelques minutes, si encore des questions qui subsistent. Alors le lecteur, j'allais dire frustré du monde. Pardon. Et amateur de La Croix. voilà. Alors, attendez le micro. Attendez le porteur du micro qui vous arrive par derrière. Un différentisme existe. Oui, tout à fait. Oui, le mot existe. Voilà, le micro arrive.
Oui, dans mes cercles militants, on essaie avant chaque élection de se rencontrer pour discerner sur le choix. Et donc là, on a des éléments de choix. Donc ce qui m'a frappé dans les éléments de choix, c'est programme vision. Arrive en second les bonnes informations pour choisir, mais par contre, arrive très faiblement la personnalité de la personne comme candidature présidentielle. Et ce qui me frappe, pour moi, est-ce que tous les candidats peuvent vraiment faire un président? Et donc, ça m'a frappé dans ce sondage, le 6e rang de la capacité à être un vrai président des personnes.
Merci. D'autres questions? Bon, sinon, on en reste là. Hein, c'est pas rien d'obligatoire. Alors, restons-en à cette remarque. Et puis, on arrêtera, je pense, là-dessus.
Moi, je peux juste réagir là-dessus parce que ça rejoint une question qu'on se pose régulièrement en conférence de rédaction à La Croix. Est-ce qu'il faut plus parler des programmes que des personnes? Et moi, je dis toujours, à la fin, c'est quand même des femmes et des hommes qui font la politique. Ce qui, d'ailleurs, préserve beaucoup de l'idéalisation de la politique parce que La politique, c'est un exercice qui a ses limites, comme le journalisme d'ailleurs, au passage.
Bon, si les autres membres de la table de l'estrade ont une remarque conclusive à apporter. Tout est, voilà, satisfaction.
Je suis persuadé que par rapport à ce phénomène de dégagisme, c'est le temps des refondateurs, c'est le temps des surgeons, c'est le temps de la refondation, moi j'y crois profondément. Donc ce temps du dégagisme, il va s'auto-détruire. Ça, le dégagisme va dégager le dégagisme. Quoi. Hein, c'est, bon, on voit bien, d'ailleurs j'y ai jamais pensé, mais le monde d'extrême droite qui est dégagiste est en train de se détruire. Emmanuel Macron qui a dégagé les clivages anciens sans en fonder de nouveaux, qui soient fondateurs d'une nouvelle société, d'une perspective, d'une eschatologie, on pourrait dire ici, etc. Et tout. C'est à un moment donné, on voit l'épuisement de cette forme-là, puisque pour le coup, elle repose que sur une équation personnelle, elle n'est pas portée par un mouvement, elle n'a pas de racines, donc elle a peu d'elle en dehors de sa propre puissance, elle n'est pas fondatrice de la démocratie. Donc il faut refonder des polarisations, des articulations et du débat démocratique. Et c'est le moment qui est le nôtre. Est-ce que c'est le moment de l'élection présidentielle ou de celui qui viendra après? J'en sais fiche trop rien. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut espérer. Et c'est la nuit qu'il faut espérer. Et il fait nuit, hein, je vous assure. Vu de l'intérieur.
Voilà, donc nous pouvons terminer là-dessus en recommandant la lecture ou l'audition des médias qui aiment la réflexion en profondeur. Écoutez RCF, lire La Croix et lire la revue Études. Alors c'est carrément plus long comme format, mais enfin, et puis c'est mensuel, mais ceci apporte en principe nous essayons d'apporter des éléments de réflexion pour ceux qui le souhaitent. Alors, je laisse la parole à Jean-Luc Poutier pour le dernier mot.
Deux petites annonces pour terminer. La première, c'est que vous trouverez à la sortie les urnes traditionnelles, non pas pour vos bulletins de vote, comme je dis chaque fois, mais pour votre contribution matérielle à l'organisation des mardis d'éthique publique. Et d'autre part, le prochain mardi aura lieu le 1er mars et la thématique retenue devrait être sortir de l'ouragan sanitaire avec deux épidémiologistes compétents qui viendront nous donner des perspectives de sortie de cette période morose. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce soir.